Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
Avez-vous déjà imaginé que un meurtre résolu pourrait impliquer la mort d'un policier? Eh bien oui, j'en ai trouvé un dossier là-dessus, et même deux qui se sont déroulés la même année et à un mois d'intervalle, et les deux affaires impliquent des policiers tués en service. Et les deux affaires n'ont jamais été résolues. Alors, on va voir pourquoi. On va d'abord voir les deux dossiers séparément. Dans le premier, celui de John Malone. Et dans le deuxième cas, on verra dans l'épisode de prochain. Donc, John Malone était un policier de Montréal. Il a été tué au cours d'une intervention qui s'est produite au cœur d'une émeute qui est survenue sur la rue Murray. Comme je vous disais, je pense que j'en avais parlé, pour les meurtres cautionné par un groupe. Ici, c'est pas le cas. C'est plutôt un homicide situationnel. On va y revenir. Mais souvent, les homicides cautionnés par un groupe, ça implique beaucoup de monde. On l'a vu à l'époque des Patriotes, par exemple, et aussi à l'époque de la Nouvelle-France, quand les Iroquois passaient à l'action. Ça implique des groupes qui sont nombreux, donc qui sont plusieurs, et ça devient difficile, voire impossible, de tous les identifier et qu'est-ce qu'ils ont fait à la seconde près chacun. C'est pas comme un crime qui implique une seule victime et un seul tueur, par exemple. C'est plus facile à analyser. Alors que si vous prenez une centaine de tueurs qui s'en prennent à une ou plusieurs victimes, c'est assez difficile, même s'il y a beaucoup de témoins, de mettre ça dans l'ordre. Donc ici, c'est un peu le cas. Donc ça se passe au milieu d'une émeute. Et bon, dans une émeute, c'est très difficile à décrire à part de... Sauf si on reste dans le général, si on veut. Alors, selon un bref résumé des témoignages qui ont été rapportés par la presse, et oui, on va commencer à avoir des références plus connues, plus sérieuses, parce que là, la presse embarque aussi. On va voir plus tard, un peu pour la région de Québec, Le Soleil. Donc, pour ceux et celles qui sont de mon âge ou environ, vous allez reconnaître des journaux qui, parce que j'en ai cité quelques-uns, par exemple, L'Événement aussi, je me souviens plus, La Minerve, tous des journaux qui n'existent plus depuis très longtemps. Mais la presse, bien, ça existe encore. Et même, il a dû s'adapter à Internet, à la nouvelle réalité. Alors, voilà, en 1885, la presse a pu s'en mêler et on va la citer d'ailleurs de plus en plus souvent. Et selon cet article-là, il y a un certain Charles Considine qui a été désarmé de son bâton par le sergent Cambridge. Donc, on s'imagine que c'est au cours de l'émeute, de la bagarre et tout ça. Il s'est ensuite emparé d'une brique qu'il a lancé à la tête du constable Malone, toujours selon la presse, du 10 novembre 1885. Et ce dernier a succombé à sa blessure par la suite. Donc Malone a été blessé d'une brique à la tête. Et on imagine assez facilement que les uniformes aussi des policiers à cette époque-là, dans les émeutes, ça devait pas être terrible, hein? Une casquette et... encore là, voilà, il avait peut-être perdu sa casquette même au cours de l'échauffourée. Alors, c'est assez... Les policiers travaillaient dans des conditions difficiles à cette époque-là. Je veux pas dire qu'ils l'ont plus facile aujourd'hui, c'est une question d'époque, mais ils l'ont très difficile aujourd'hui aussi. Mais à cette époque-là, les équipements de protection et tout ça, on se l'imagine assez vite. Est-ce qu'il aurait eu la vie sauve s'il avait porté un casque? Ben, peut-être. Dans une émeute, c'est parce que la problématique, c'est qu'il y a tellement de monde, on est confronté à tellement d'adversaires en même temps, qu'on ne sait plus où regarder, on ne sait plus où porter notre attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut des équipements de protection pour prévenir les coups qu'on ne voit pas venir, justement. Donc, étant donné qu'on avait un certain témoignage, donc il y avait une certaine preuve d'accumuler contre Charles Considine, lui a subi son procès en novembre 1885 pour le meurtre de John Malone, du policier Malone. Et durant ce procès-là, il y a un témoin qui a raconté avoir vu l'accusé prendre la fuite après avoir frappé Cambridge, donc il n'avait pas frappé un seul policier. Et laissant entendre aussi par ce geste-là qu'il ne pouvait pas être responsable de la mort du policier Malone. Donc, c'est ce que ce témoin-là venait de laisser entendre, c'est que s'il s'en était pris à Cambridge, ben c'est parce qu'il n'avait pas pu s'en prendre en même temps à Malone, et on laissait ici soupçonner, ou on laissait entendre la possibilité que ce soit une autre personne qui soit responsable de la mort de John Malone. Et la défense a d'ailleurs rappelé que il se rappelait aussi, ce témoin-là, avoir vu un autre homme qui n'a apparemment été jamais identifié frapper Malone à la tête avec une brique. Alors là, ça vient défaire un peu les faits qui avaient été rapportés au départ lors de l'événement. On a cependant un autre témoin qui a décrit le véritable fautif, selon lui, comme un homme portant une épaisse moustache. Donc, est-ce que c'était le vrai tueur? Difficile à dire, mais malheureusement, on n'a jamais pu l'identifier clairement. Après quelques minutes de délibération, le jury a prononcé un verdict d'acquittement. Alors, voilà, la preuve n'était pas assez explicite ou assez forte contre Considine. Toutefois, Considine a été arrêté sur le champ avant même de pouvoir rentrer chez lui. Pourquoi? Ben parce qu'il devait maintenant faire face à une accusation d'assaut contre le constable Cambridge. Alors voilà. Pour sa défense, il a prétendu qu'il était en train de frapper le policier Cambridge pour se disculper d'avoir frappé Malone, mais frapper un policier, ça se pardonne pas. Donc, il a été accusé de ça. Évidemment, il s'en est sorti avec une peine beaucoup moins grave que s'il avait été reconnu coupable, par exemple, du meurtre de John Malone. Mais c'est un premier cas, évidemment, de policier tué en service et qui n'a jamais été résolu. Donc, une affaire non résolue impliquant la victime, que la victime soit un policier. J'imagine, comme c'est le cas aujourd'hui, que les policiers, ils essaient d'être objectifs dans leurs enquêtes. Mais quand c'est la mort d'un policier, normalement, on essaie d'aller... on met toute la machine en branle, comme on dit, pour régler ça. Parce que si on a... S'il y en a qui peuvent dire, accuser que les policiers vont être plus compétents, vont enquêter beaucoup plus, vont travailler plus fort si c'est un meurtre de policier. Mais n'empêche que les policiers nous représentent dans la société et c'est eux qui nous protègent. Donc, si on met pas un minimum d'effort pour une enquête, pour essayer de retrouver son meurtrier, les responsables et tout ça, ça vaudrait quoi? Ça serait pas une très, très belle image. Donc, les gens peuvent chialer tant qu'ils veulent, dire « Ah, les policiers, quand il y en a un qui meurt, on déploie plus d'efforts. » Peut-être, mais c'est pas le cas ici, là, c'était pas la question, mais je sens des fois qu'elle vient toute seule. mais c'est ça, c'est j'imagine que pour le cas de John Malone, on a tout mis en œuvre pour essayer de régler cette affaire-là. Et malheureusement, ça se termine par un verdict d'acquittement, donc ça reste un mystère. Et je mets une petite virgule ou un point virgule parce que le prochain épisode, écoutez, c'est une coïncidence, ça arrive comme ça. Mais John Malone a perdu la vie en juillet 1885 à Montréal. Et toujours à Montréal, à Griffintown, et le mois suivant, il y a un autre policier qui lui aussi a été tué en service. Et imaginez-vous donc que, ce cas-là aussi est resté non résolu. Alors, on va voir pourquoi dans le prochain épisode. Alors, sur ce, bonne soirée. Au revoir.